Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Maniakis à la présentation de cette édition du mardi 14 septembre 2021. Voici d'abord le sommaire. En Guinée, la junte lance des concertations nationales en vue d'une transition pour amener un pouvoir civil. Le ministère malien de la Défense admet mener des pourparlers avec la société russe Wagner pour assurer la sécurité. Au Nigeria, au moins 108 des 240 fugitifs dimanche d'une prison du centre du pays ont été arrêtés. Aux États-Unis, la Californie vote un référendum aujourd'hui qui pourrait décider de l'avenir de son gouverneur démocrate. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Lancement ce mardi à Conakry des consultations à l'appel de la junte militaire. Objectif, définir le contenu d'une transition censée aboutir à un retour des civils au pouvoir. Abdourahmane Dia.
Pour celle d'Alain Diallo, le principal opposant à l'ex-président Alpha Condé, cité par Guinée News à la sortie de la rencontre, il s'agissait d'une prise de contact avec les nouvelles autorités. Chaque parti ou coalition devra se retrouver pour formuler des propositions, a-t-il dit. Ce matin, avant l'ouverture au Palais du Peuple, siège du Parlement, des dizaines de représentants des partis politiques se bousculaient pour passer une porte étroite gardée par des soldats. Les responsables des partis politiques, que les chefs religieux, des membres de la société civile, les diplomates étrangers et les acteurs du secteur économique vont successivement rencontrer les putschistes dans une série de rencontres qui vont durer jusqu'à vendredi. Les militaires ont promis la formation d'un gouvernement d'union nationale. La junte a appelé lundi soir les Guinéens à n'accorder aucun crédit à de prétendus projets de charte de transition que feraient circuler des individus mal intentionnés. Elle a indiqué qu'une telle charte ne serait élaborée qu'à la fin de la concertation.
Le Mali est en discussion avec la société militaire privée russe Wagner qui pourrait déboucher sur le déploiement d'un millier de paramilitaires russes au Mali. Une perspective qui inquiète la France, qui a une présence militaire depuis plusieurs années. Bagassi Koura.
L'arrivée de ces troupes pourrait remettre en cause l'engagement de la France au Mali, où ses militaires combattent les groupes djihadistes depuis 8 ans. De sources françaises proches du dossier, la junte au pouvoir à Bamako étudie la possibilité de conclure avec Wagner un contrat sur le déploiement d'un millier de paramilitaires russes pour former ses forces armées maliennes et assurer la protection des dirigeants. Une source sécuritaire ouest-africaine a de son côté affirmé que Wagner négocie pour arriver en force au Mali, moyennant finances et des contreparties minières. Ces sources confirment les informations révélées par l'agence Reuters qui a rapporté ce lundi que le Mali pourrait céder à la société russe l'exploitation de 3 gisements miniers, en plus de leur verser 6 milliards de francs CFA par mois. Sollicité par l'AFP, le ministère malien de la Défense a admis mener des pourparlers avec la société russe. « Nous n'avons rien signé avec Wagner, mais nous discutons avec tout le monde », a-t-il réagi tout en insistant qu'à ce stade, rien n'a encore été signé.
Un dissident rwandais, ancien lieutenant de l'armée, a été tué par balle au Mozambique, où il était réfugié après avoir fui son pays en 1994. A indiqué mardi la police de Maputo. Des hommes armés non identifiés ont tiré sur la voiture de révoquant Karemangingo, 49 ans, alors qu'il se rendait à son domicile dans la capitale mozambicaine. En Somalie, 9 personnes, en majorité des membres des forces de sécurité, ont péri mardi dans un présumé attentat suicide contre un point de contrôle à Mogadiscio. C'était un lieu de rassemblement fréquent des forces de sécurité, a déclaré Mohamed Ali de la police somalienne. L'enquête est toujours en cours, mais d'après les indications actuelles, un kamikaze a provoqué l'explosion, a-t-il dit. L'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, dont sa famille est ciblée par une vaste campagne de lutte anti-corruption, s'est rendu mardi en Angola après plus de 2 ans en Espagne, selon l'agence de presse gouvernementale. Au Nigeria, retour en prison pour au moins 108 des 240 détenus qui s'étaient évadés dimanche d'une prison du centre du pays. Ils ont été capturés par les forces de sécurité. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le nombre de prisonniers repris va augmenter au fil des heures, a assuré le porte-parole de l'administration pénitentiaire après l'évasion de la prison de Kaba dans l'état de Kogi. Il a affirmé que diverses mesures ont été prises sans préciser lesquelles pour que tous les évadés soient rattrapés. Il avait annoncé dimanche soir l'attaque par des hommes armés non identifiés de la prison de Kaba et l'évasion de 240 prisonniers. Un soldat et un gardien ont été tués durant l'assaut, avait-il indiqué, en précisant que la prison accueillait 294 prisonniers, dont 224 prévenus en attente de jugement. Le 5 avril, des hommes armés avaient pris le QG de la police d'Oweri dans le sud-est et libéré plus de 1800 prisonniers. Depuis plusieurs années, les forces de sécurité nigériennes sont débordées par les opérations de gangs armés dans le centre et le nord-ouest, une insurrection djihadiste dans le nord-est et des troupes séparatistes dans le sud-est.
La Côte d'Ivoire a lancé plusieurs opérations coup de poing contre la corruption dans les services publics, notamment la police et la gendarmerie, a annoncé mardi le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Le message, c'est attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit, a déclaré Zoro Epiphane Ballot à la tête du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Il a estimé que la corruption est un défi important pour la bonne gouvernance, la croissance durable, la paix et le développement. Le gouvernement de Djibouti a démenti mardi des rumeurs sur l'état de santé du président Ismaël Omar Guelleh, âgé de 73 ans et au pouvoir de cet état de la Corne de l'Afrique depuis 1999, affirmant qu'il prenait du repos après un surménage. La Sierra Leone a annoncé la levée du couvre-feu et des restrictions sur les rassemblements imposés en juillet pour faire face à une troisième vague de contamination Covid-19 à la suite d'une baisse du nombre de nouveaux cas dans le pays. Les enseignants et les personnels administratifs des écoles élémentaires et secondaires ainsi que des établissements d'engagement supérieur devront fournir une preuve de vaccination. L'accès aux bars, restaurants, cinémas, boîtes de nuit et hôtels est également soumis à cette exigence.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Biden a appelé hier soir les Californiens à voter massivement ce mardi contre le référendum visant à révoquer leur gouverneur pour éviter d'avoir à sa place un animateur radio ultra-conservateur qualifié de clone de Donald Trump par le président Biden. Le référendum en Californie se tient aujourd'hui. Claire Morin-Gibourg.
En meeting à Long Beach au sud de Los Angeles, le président Joe Biden a défendu le gouverneur Gavin Newsom.
Les yeux de la nation sont sur la Californie avec la décision que vous êtes sur le point de prendre qui aura un impact énorme sur la Californie et se fera sentir dans tout le pays. Et ce n'est pas une blague, dans le monde entier.
L'État américain le plus peuplé, la Californie est aussi la cinquième puissance économique mondiale. En vertu de sa constitution, les électeurs mécontents peuvent organiser un référendum pour tenter de faire tomber le patron de l'État. L'ancien maire de San Francisco, Gavin Newsom, ne risque théoriquement pas grand-chose. Mais le renfort de dernière minute de Joe Biden montre que le Parti démocrate prend ce scrutin très au sérieux, qu'une révocation est toujours possible, surtout si la participation est faible. Il y a 18 ans, un vote similaire avait permis à Arnold Schwarzenegger de conquérir la Californie en faisant tomber le gouverneur démocrate de l'époque.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken va réunir vendredi virtuellement ses homologues d'Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc pour marquer le premier anniversaire des accords d'Abraham de normalisation de leurs relations. Ils vont également discuter des manières d'approfondir les relations et bâtir une région plus prospère, a dit mardi un porte-parole du département d'État. Le chef du parquet de Port-au-Prince a demandé mardi au juge enquêtant sur l'assassinat du président Jovenel Moïse d'inculper le premier ministre Ariel Henry en raison d'appels téléphoniques qu'il aurait eu avec l'un des principaux suspects du meurtre. Bedford Claude, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, équivalent du procureur, a par ailleurs demandé que M. Henry soit interdit de quitter le territoire haïtien en raison de la gravité des faits exposés. Le président Moïse a été abattu le 7 juillet par un commando armé à son domicile de Port-au-Prince. Le président russe a révélé mardi devoir se mettre à l'isolement, avoir été en contact avec un collaborateur malade du Covid-19, disant compter sur le vaccin Sputnik V pour échapper à la maladie. Il y a quelques semaines encore, l'écrasante majorité de ses engagements se faisait par vidéo, mais il a reçu lundi à Moscou le président syrien Bachar al-Assad. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée ce soir Rosine Munezero.
L'opérateur de téléphonie mobile Vodacom South Africa a enrichi son réseau télécom de 3 sites supplémentaires fonctionnant à l'énergie solaire. Ces nouvelles installations vont contribuer à la continuité des services en cas de coupure d'électricité. Les projets solaires déployés par Vodacom South Africa rentrent dans le cadre de la stratégie de développement durable, dont la réduction de la consommation d'électricité et de l'émission de carbone de moitié d'ici 2025. La première sous-station haute tension entièrement numérique sur le continent africain a été mise en service au Sénégal par Grid Solutions. Ce poste fait partie du programme de la Société nationale d'électricité sénégalaise, Senelec, et permettra non seulement de fournir de l'électricité aux foyers, mais aussi de gérer l'alimentation du réseau à partir de diverses sources d'énergie renouvelables. La start-up égyptienne Capiter, active dans le commerce électronique, a bouclé un tour de table de 33 millions de dollars, écrit l'agence Ecofin. Soutenue par plusieurs investisseurs, cette levée de fonds est destinée à soutenir l'expansion de la société dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Capiter s'est spécialisé dans la mise en relation de fabricants souhaitant écouler leurs produits et de commerçants à la recherche de fournisseurs fiables.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Volleyball pour commencer. La Tunisie a remporté la finale de la CAN masculine à Kigali au Rwanda devant le Cameroun battu 3-7 à 1. En match de classement pour la troisième place, l'Égypte a disposé du Maroc 3-7 à 1 également. Football, il ne chaussera plus les crampons. Le Sénégalais Dembaba, ancien attaquant de Chelsea et Newcastle United, met fin à ses 16 ans de carrière. C'est avec un cœur rempli de gratitude que j'annonce la fin de ma carrière de joueur. Quel voyage merveilleux cela a été. Outre toute la sueur et les larmes que j'ai subies, le football m'a procuré tant de belles émotions, a écrit Dembaba sur Twitter. Il a marqué 14 buts, toutes compétitions confondues avec Chelsea, avant de déménager en Turquie. Après une saison, il y a remporté à 2 reprises le championnat turc avec Beşiktaş en 2016-2017 et Istanbul Başakşehir en 2019-2020. Il a effectué 2 séjours en Chine avec Shanghai chinois. Il était sans club après avoir quitté le club suisse de Lugano le mois dernier. Dembaba compte 22 sélections avec le Sénégal. La Ligue des champions a repris ce soir en Europe. Grosse surprise d'entrée avec la victoire des Suisses de Young Boys 2-1 face à Manchester United. Cristiano Ronaldo avait ouvert le score pour les Mancuniens. À 36 ans, le Portugais égale le record du nombre de matchs disputés dans la compétition à égalité avec l'Espagnol Iker Casillas, 177 apparitions. Dans l'autre match du groupe, 1-1 entre le vainqueur de la Ligue Europa Villarreal et l'Atalanta Bergame. Le Séville FC débute, lui, face aux Autrichiens de Salzbourg. Le tout-puissant Bayern Munich débute par un déplacement au Camp Nou entre du FC Barcelone, affaibli par les blessures de Sergio Aguero et Ousmane Dembélé, et surtout le départ de la superstar Lionel Messi. À Lille, les champions de France s'attaquent à Wolfsburg. Le tenant du titre Chelsea commence avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Match déséquilibré sur le papier en tout cas pour la Juventus Turin qui rend visite aux Suédois de Malmö. Toujours en Europe, l'AC Milan a annoncé hier saisir la Fédération italienne de football pour qu'elle enquête sur des cris racistes présumés dont son milieu de terrain français Tiemouye Bakayoko affirme avoir été la cible de la part de supporters de la Lazio dimanche. Nous sommes forts et fiers de notre couleur de peau. J'ai pleine confiance dans notre club pour les identifier, a écrit Bakayoko sur son compte Instagram en novembre 2019. Les 20 clubs de Serie A ont publié, je cite, une lettre ouverte à tous ceux qui aiment le football italien pour dénoncer, je cite, le racisme dans les stades qui est un motif de frustration et de honte selon eux.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Concertation en Guinée, le conclave entre les forces vives de la nation et les militaires qui ont pris le pouvoir s'est ouvert ce mardi. Les participants ont 4 jours pour définir le contenu de la transition censée ramener les civils à la tête du pays. Pour les perspectives de ce forum, Jean-Roger Billon a joint à Conakry Faya Milimuno, leader du bloc libéral, qui participe à la rencontre.
Les leaders politiques ont été les premiers à rencontrer la junte. C'était donc une première prise de contact, un contact d'explication, parce qu'ils ont profité de l'occasion pour nous dire, avec un peu plus de détails, les raisons pour lesquelles ils ont pris leurs responsabilités pour procéder à une rectification.
Alors le problème qui se pose, c'est les contours que vont prendre la transition. Qu'est-ce que vous entrevoyez en tant qu'opposant?
Ceci est la troisième opportunité qui s'est présentée aux Guinéens. Les deux premières ont été ratées. Celle-là doit être saisie et nous devons prendre le temps de faire une refondation totale de l'État guinéen. C'est effectivement en tenant compte de cette souffrance du peuple que nous n'allons pas accepter que la précipitation s'empare de cette période transitoire. Nous allons écrire une constitution qui soit à la hauteur de nos ambitions. Nous devons faire une refondation totale de l'État guinéen. Ça, ça prend du temps. On n'a pas un fichier électoral. Il faut le recréer. On n'a pas un organe de gestion des élections digne de ce nom. Il faut le recréer. Nous avons un passif de 63 ans. Beaucoup de crises économiques et de sang ont été commis. Et l'impunité a caractérisé les dizaines d'années de notre indépendance. Il faut que nous regardions de près dans tout ça pour ne pas continuer à recycler les mêmes qui ont mis à terre ce pays.
Ce sont les militaires qui sont au pouvoir. Quelle dimension souhaiterez-vous que l'opposition prenne dans les nouvelles instances qui vont diriger la Guinée?
Je dirais plutôt que la junte doit faire en sorte que le gouvernement qui sera mis en place, les institutions transitoires qui seront mises en place, ne soient pas une répartition de privilèges entre les ethnies ou les partis politiques. Il faut identifier des hommes et des femmes sur la base de leurs compétences, leur intégrité, leur probité morale. La Guinée en a souffert. Si nous en faisons encore une répartition de privilèges, nous reviendrons à la case départ.
La communauté internationale regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Guinée. Quel pas souhaiterez-vous qu'elle prenne, cette communauté internationale?
Elle est la bienvenue pour nous accompagner, comme cela a toujours été le cas. Sauf que cette fois, nous allons souhaiter auprès de nos partenaires bi- et multilatéraux de laisser la place à la Guinée et aux Guinéens de poser les jalons d'une république de leur rêve. La communauté internationale sera riche à bras ouverts, mais nous serons fermes quant à la gestion de cette période transitoire, parce que nous n'avons pas droit à l'erreur.
Docteur Faya Milimuno, leader du bloc libéral en Guinée.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, les groupes d'aide internationale demandent au gouvernement de les aider à enregistrer les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a affirmé que le gouvernement met des semaines à enregistrer les déplacés. Un reportage de Henry Wilkins depuis Ouigouya, au Burkina Faso. Le récit est de Rosine Munezero.
Dans un communiqué publié lundi, le Conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que les autorités gouvernementales prennent des semaines pour enregistrer les personnes déplacées, comme ces quelques 500 personnes qui, jusqu'à récemment, étaient hébergées dans une école de la ville de Ouaïgouya. Le NRC affirme qu'il pourrait mener à bien le processus d'enregistrement, qui est essentiel avant que l'aide puisse être distribuée aux personnes déplacées en l'espace d'une semaine, et implore le gouvernement en disant « Laissez-nous intervenir et apporter notre soutien ». Rasmata Ouedraogo, qui vivait dans l'école, a fui son village de Nongo avec son jeune fils, après une attaque terroriste.
Il portait des uniformes de l'armée. Il était donc difficile de savoir s'il s'agissait de terroristes. J'ai dû me cacher pendant 2 jours dans ma maison.
Elle dit être arrivée à Waiguya il y a environ 2 mois. Et jusqu'à présent, sa famille a reçu 100 dollars d'aide.
La première chose dont nous avons besoin est de la nourriture pour nous, pour nos enfants et ensuite d'autres choses comme des vêtements.
Le chef de la communauté des personnes déplacées dit que ce mois-ci, les élèves vont reprendre leurs études. Donc le directeur de l'école a demandé aux déplacés de déménager. Les autorités locales les ont envoyés sur un site en dehors de la ville où l'accès à la nourriture et aux services est difficile.
Au tout début, nous avons pu avoir quelques céréales comme le maïs et le millet. Plus de 100 dollars pour chaque famille, mais c'était il y a 2 ou 3 mois. Certaines personnes sont arrivées récemment et ces personnes n'ont pas eu de nourriture jusqu'à présent.
De nombreuses personnes déplacées qui sont restées à l'école disent ne pas savoir si elles ont été enregistrées ou non. Elles affirment aussi ne pas recevoir suffisamment d'aide. Lors d'une conférence de presse lundi, la ministre des Affaires humanitaires, Laurence Marshall-Iboudo, a répondu.
L'enregistrement. Vous avez demandé pourquoi on ne facilite pas l'enregistrement, que les partenaires peuvent le faire mieux que les locaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont les ressources, parce qu'ils ont les machines, c'est tout. Sinon, nous avons l'expertise nationale pour le faire. Pourquoi ne pas venir avec nous appuyer sur cette expertise matérielle pour que les locaux le fassent eux-mêmes?
Alors que l'école est désormais vide, en attendant le retour des élèves, les personnes déplacées ont toujours besoin d'aide.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, le gouvernement envisage une énième prolongation de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le mois de mai dernier. Cette mesure est censée mettre fin aux activités des nombreux groupes armés qui écument la région, tardent à produire les résultats escomptés. Pour en parler, Mohamedou Onfa s'est entretenu avec Stuart Muhindo. Il est membre de la Lucha, lutte pour le changement, un mouvement citoyen basé en RDC.
L'envie du gouvernement de prolonger l'état de siège contraste avec la situation sécuritaire, mais aussi avec les avis de population. À Beni, par exemple, où je suis, depuis hier, donc le lundi et le mardi, nous sommes en train d'observer une ville morte à l'appel de la société civile locale pour effectivement condamner la persistance de l'insécurité malgré l'état de siège. Que ce soit en Ituri, que ce soit en territoire de Beni, les tueries se poursuivent, les attaques contre les populations se poursuivent, sans que les services de sécurité ne se montrent à la hauteur de la menace. Donc c'est plutôt étonnant que le gouvernement envisage de prolonger toujours l'état de siège, alors que sur le plan du vécu quotidien, il n'y a rien qui se fait pratiquement sur terre.
L'objectif de cet état de siège est de faire cesser les massacres de civils dans ces provinces, mais depuis le mois de mai que l'état de siège a été décrété, les violences continuent. Pourquoi selon vous?
Les violences se poursuivent et elles sont encore plus intenses, plus vives et encore plus répandues qu'elles ne l'étaient même avant l'état de siège. Et cela, c'est pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il n'y a pas eu une évaluation sérieuse des causes des échecs des opérations militaires précédentes, mais aussi il n'y a pas eu un accompagnement sérieux, une planification vraiment objective, sérieuse de l'état de siège. Et c'est comme ça que, par exemple, on a vu que au niveau des entités territoriales décentralisées, les autorités ont été nommées 2 mois après la déclaration de l'état de siège. On a vu que les moyens ont été décaissés avec retard. Donc, bref, c'était comme une décision qui n'avait pas été précédée d'une évaluation sérieuse des échecs des opérations militaires précédentes, ni d'une planification efficace, réaliste pour la neutralisation de groupes armés.
Ça fait quand même 25 ans que ces violences durent et on ne va pas certainement les arrêter en quelques mois. Que faut-il faire de plus selon vous pour trouver une solution durable à ce phénomène?
Pour résoudre ces violences, nous pensons en fait d'abord que dans ce contexte, il faut démilitariser complètement l'administration et la justice. Il faut donner aux militaires l'opportunité de se concentrer aux opérations militaires et laisser l'administration et la justice entre les mains des civils. Deuxièmement, il faut soutenir, que ce soit sur le plan financier que logistique, les forces armées congolaises qui sont engagées à combattre. Il faut également trouver une alternative à la MONUSCO qui est là mais qui n'appuie pas suffisamment les forces armées congolaises. On a vu des expériences comme Artemis au début des années 2000 en Ituri qui a porté de fruits. Il faut également mettre en place un programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire des miliciens qui souhaitent rentrer les armes. Et il faut apporter des solutions aux problèmes de mauvaise gouvernance, parce que toutes les violences qui sont entretenues ici, c'est parce qu'il y a cette mauvaise gouvernance, et c'est le travail des Congolais de se battre pour de bonnes élections, pour une vraie démocratie, parce que la base de toute cette insécurité, c'est ce manque de leadership politique sérieux qui se sent redevable envers le peuple, qui a été élu par le peuple et qui est au service du peuple.
Stuart Muhindo, membre de la Lucha, lutte pour le changement, un mouvement citoyen basé en RDC.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'agenda socio-économique de Joe Biden face à un congrès divisé. Fortement critiqué sur le retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan, le président américain tente de se relancer en remettant sur la table son plan de réforme sociale de 3 500 milliards de dollars. Plan désormais sous menace avec les réserves d'un sénateur démocrate modéré et d'un camp républicain foncièrement contre. Joe Biden et les démocrates peuvent-ils surmonter les obstacles à la mise en place de leur programme à un peu plus d'un an des élections de mi-mandat? Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au début de la pandémie de Covid-19, le Bénin a mis en place un service permettant aux personnes d'enregistrer leur entreprise en ligne. Le système d'enregistrement électronique a si bien fonctionné que ce pays est devenu le lieu le plus rapide au monde pour créer une entreprise. Suivez avec nous ce reportage d'Anne Nzouanke, le récit avec Ginny Niwa, Kapumbu Villa.
Sandra Idosu est propriétaire d'un magasin d'art à Cotonou. Elle a soumis sa demande d'entreprise en ligne et a reçu l'approbation et les documents juridiques dans les 3 heures.
S'il n'y avait pas cette facilité à créer en ligne, s'il fallait retourner et faire la queue, faire la file, passer dans le labyrinthe de l'administration pour créer cette entreprise, je ne l'aurais pas fait. Aussi simplement que ça, je serais restée dans l'informel.
Pour créer son entreprise, Sandra est allée en ligne sur le site monentreprise.bj, une plateforme béninoise pour créer et officiellement démarrer une entreprise lancée en février 2020 par l'Agence de promotion des investissements et des exportations du pays. C'était au début de la pandémie Covid-19. Les candidats remplissent les informations requises, téléchargent les documents nécessaires et effectuent le paiement en ligne. Ces documents arrivent au siège de l'agence où le personnel vérifie les informations et envoie les certificats à ceux qui sont approuvés. Laurent Gambès de l'agence pour la promotion Import-Export.
En 2019, nous étions à peu près 28 000 entreprises créées et en 2020, nous sommes passés à plus de 41 000 entreprises créées. Donc pour nous, c'était une performance, ça nous montre que la plateforme a été acceptée et aujourd'hui nous avons des performances de 3 heures.
Le service en ligne a fait du Bénin l'endroit le plus rapide au monde pour créer une entreprise selon la CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Même ceux qui vivent à l'étranger peuvent utiliser le service pour créer une entreprise au Bénin. Les économistes voient de grands avantages pour les entrepreneurs. Albert Onloku, professeur d'économie.
Ça réduit les coûts et puis ça réduit les délais aussi. Et ça permet d'éviter la corruption, les papiers qu'il faut trimballer, etc. Et en période de Covid, ça permet d'éviter les contacts et aussi d'éviter l'allongement des délais.
L'Agence de promotion des investissements et des exportations a déclaré qu'elle continuerait de revoir les procédures et le dialogue avec le secteur privé pour mieux améliorer le processus.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Nanila Gahima, Joselle Morissin, Georges et Léonard Sagnot et Michel Claire-Joseph. Eric Manila Kiza a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.